Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
J'en ai l'ouest à la bouche avec Jérémy Gosselin, le sommelier, et Yann Dallaire, celui qui connaît pas ça.
Je m'appelle Jérémy Gosselin, je suis sommelier de Winnipeg. J'adore les vins et surtout les vins canadiens. Depuis quelques années, c'est ma passion de découvrir des bons vins canadiens et des bons cidres canadiens et de les faire découvrir aux autres.
On regarde, on sent, on goûte.
Bonjour Jérémy Gosselin.
Bonjour.
On boit un vin rouge aujourd'hui.
On va boire un vin rouge de Spearhead, le Pinot Noir Cuvée 2021.
J'en ai l'ouest à la bouche.
Spearhead, c'est un producteur qui est situé près de Kelowna, un peu au sud-est de Kelowna. Un petit producteur, le vin qu'on va boire aujourd'hui, juste 394 cases de ce vin.
OK, ici. Wow!
Alors, en tout, ils n'ont pas une super grande production. Ils cueillent les raisins à la main. Puis quand on cueille à la main, c'est le fait qu'on peut faire un tri des bons raisins. Aussi, c'est d'habitude, c'est quand ils placent les raisins dans leur petite case, c'est des plus petites cases. Alors, les raisins sont moins endommagés quand ils arrivent au domaine pour se faire presser.
Ouais.
Alors, il y a un tri, c'est en meilleure condition, ça prend plus de temps, mais ça permet quand même des vins de qualité. Alors ici, c'est un petit producteur qui mise vraiment sur la qualité.
C'est un producteur qui est récipiendaire de plusieurs prix.
Oui, c'est ça. En 2022, ils ont gagné meilleur petit producteur dans le concours des meilleurs vins canadiens.
Okay.
Et puis, il y a beaucoup de vignobles qui participent, des centaines de vignobles qui participent dans ce concours-là. Alors, le fait de gagner la première place, c'est quand même vraiment impressionnant. Puis, même quand on les mélange avec les plus grands producteurs, ils sont toujours dans le top. La liste de prix et de médailles qu'ils ont gagné, c'est sur le site web. Puis, ça prend vous prenez votre souris, là, puis ça voyage.
Oui, OK, d'accord. Oui. Ouais. Faut descendre bas. Oui. On va goûter un pinot noir. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le pinot noir avant qu'on l'ouvre?
Le pinot noir est connu comme un cépage qui est difficile et capricieux. C'est un... en anglais, ils appellent ça « the heartbreak grape ». Alors, c'est le cépage qui brise les cœurs parce que c'est un cépage... quand ça pousse sur la vigne, la peau est mince, comme la peau du pinot noir est mince, puis les grappes sont assez serrées. Alors, quand il y a des conditions qui sont trop humides, il peut y avoir des problèmes de raisins pourris, de moisissures.
Ouais, la peau qui craque.
La peau qui craque, des choses comme ça. Aussi, le pinot noir n'aime pas avoir trop de chaleur, mais il y a quand même besoin de chaleur. Alors, c'est très imprévisible. Mais les personnes continuent à faire pousser le pinot noir parce que le pinot noir peut donner des vins qui sont fantastique, vraiment complexe, des arômes qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres vins.
C'est un cépage assez populaire quand même. Moi, j'ai entendu ça mille fois, Pinot Noir.
Oui, c'est un cépage populaire qui démontre un peu le fait que ça produit des choses, des vins intéressants. Puisque si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas de Pinot Noir dans les magasins parce que les personnes qui travaillent dans le vignoble seraient comme...
Ça vaut pas la peine.
Ça vaut pas la peine.
Ouais.
Ça vaut pas la peine si personne aime le pinot noir.
Puis on se donne tant de misère.
On va juste pas garder le pinot noir dans nos vignobles. Alors, je pense, pour moi, c'est un peu... ça démontre à quel point que les personnes aiment le pinot noir. Puis le fait qu'il y a la peau mince, ça fait en sorte que c'est d'habitude un vin qui a moins de tanins. Alors, dans les... vins ou qui sont doux par rapport à cet aspect-là, le Pinot Noir est certainement un candidat qui, de façon internationale, est très connu pour cette facilité-là en bouche.
Ça, c'est quelque chose que tu m'avais appris, le fait que quand la peau est mince, il y a moins de tanins. Puis une autre chose que tu m'as apprise, que je peux constater avec la forme de la bouteille, c'est-à-dire qu'on a une bouteille où... Le commun des mortels pourrait voir que c'est plus une bouteille de vin blanc. C'est-à-dire, elle est plus, le cou est plus allongé, puis il n'y a pas des épaules là, vraiment très prononcées. Et ça aussi, c'est un signe, si je ne me trompe pas, de moins de tannin.
Oui, exactement. Il peut toujours avoir des exceptions, mais ici, c'est le cas. C'est le pinot noir a en général moins de tannin. Alors, quand on verse le vin, on ne s'inquiète pas d'avoir un résidu de tannin. Ça peut arriver si on le fait vieillir, mais en général, c'est pas autant que quelque chose comme du Cabernet Sauvignon.
D'accord.
Puis ici, on avait bu du Chardonnay dans l'autre émission. Et puis, je pense que c'est exactement la même forme.
C'est exactement la même forme de bouteille.
Alors, c'est comme une bouteille de vin blanc.
Voilà. On l'ouvre?
On l'ouvre.
On l'ouvre.
Au lieu de juste regarder la bouteille, on va l'ouvrir. Le pinot noir qu'on va boire, c'est un pinot noir cuvée. Ils ont d'autres pinots noirs que c'est Saddle Block ou Golden Retreat, puis ça, c'est des vignobles spécifiques. Ici, c'est un assemblage de différents vignobles. Alors vraiment, le vinificateur Grant Stanley, qui est aussi directeur général de Spearhead, il met son pinot noir en fût, puis là, il goûte les différents fûts, puis là, il dit « Oh wow, ça, c'est de meilleure qualité. Tout en général est de vraiment bonne qualité, mais il prend le meilleur des meilleurs, puis là, il fait un assemblage de qu'est-ce qu'il pense qui irait bien ensemble. Et c'est ce qu'on est en train de boire, c'est le pinot noir cuvée. Alors, ça vient du vignoble Golden Retreat, puis aussi un vignoble qui est tout près, le vignoble du domaine qui est dans le sud-est de Kelowna, tout près de Kelowna.
Donc, ce que j'entends de ce que tu viens de dire, c'est le fait que le producteur peut avoir différents terrains où poussent ses raisins. Parce que là, tu parles de différents vignobles, mais ça reste quand même sous le chapeau de Spearhead qui vont chercher leurs raisins sur différents terrains qui sont ça, des vignobles?
Exactement, oui, c'est ça. Puis beaucoup de producteurs font ça, qui ont différents vignobles. Puis des fois, ils peuvent être très loin l'un de l'autre, ces vignobles-là. Puis ce que ça fait, c'est que ça leur permet d'avoir une variété de cépages, puisque certains cépages préfèrent un climat plus frais ou plus chaud. Aussi, selon le millésime, ça donne une certaine flexibilité par rapport à qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent un certain style ou s'ils font des assemblages. C'est que tel vignoble peut souffrir d'un gel ou de grêle ou de feu de forêt. Puis même juste à 10 km, ça peut être une histoire complètement différente. Alors, d'avoir des vignobles qui sont un peu ici et là dans une région, c'est très commun pour les producteurs, même pour les producteurs qui sont plus petits. Pour les grands, grands producteurs, ça c'est certainement très, très, très commun. Mais même pour les petits producteurs, c'est très commun d'avoir une variété de vignobles.
D'accord. Alors là, il est dans notre verre. Si on regarde la couleur, pour moi, ça saute aux yeux qu'il est pas très opaque.
Non, c'est ça.
On voit... Et puis même, si je penche mon verre, là, il y a une espèce de partie vraiment sur le rebord du verre qui est quasi transparente. Là, quelques millimètres, qu'on pourrait presque voir que c'est de l'eau visqueuse. Puis après, ben, on tombe dans une espèce de rouge cerise clair quand même. T'sais.
Oui, c'est ça. Même dans le milieu, au plus profond, on voit encore à travers du vin, puis c'est transparent. Alors ça, c'est commun pour le pinot noir, d'avoir cette couleur, cette transparence, un rouge vif, que le rebord soit, presque blanc très léger comme couleur.
Ce qui n'était pas le cas du tout des autres chroniques de vin rouge qu'on avait faites.
Non, c'est ça.
Moon Cursor était très foncé. Là.
Oui, très foncé. Puis c'est des différents cépages. Ouais. C'est du tannate, syrah. Ouais. C'est des vins rouges qui ont plus de tanins, qui sont connus pour cette couleur opaque-là. Alors,
est-ce que tannin et couleur foncée vont de pair?
En général, s'il y a moins de tanins, ça va être plus clair.
Okay.
Mais il y a comme l'exception, c'est du Nebbiolo. Ça, c'est commun de regarder du Nebbiolo puis penser « Oh, il va pas avoir beaucoup de tanins. » Puis là, en bouche, c'est comme « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Alors, mais je dirais que ça serait probablement l'exception la plus connue. Autrement...
Pour le commun des mortels.
Pour le commun des mortels, je dirais que oui, si c'est transparent, il y a plus de chances que il est moins tannin.
D'accord. Oh, il sent magnifiquement bon. Wow! Oh, il sent les cerises. Est-ce que je décèle de la vanille aussi? Ça peut-tu,
ça? Oui, ça se peut, certainement. Ouais, je pense pour moi, c'est dans les... Oui, certainement les cerises. Ouais. Puis, c'est... Je dirais un peu plus des cerises rouges. C'est un... C'est drôle parce que c'est des cerises mûres, mais pas trop. Alors, je dirais quand même des cerises rouges. Il y a un côté de rose, comme des fleurs.
La fleur.
La fleur qui vient, qui est un peu cette, dans les arômes de... c'est léger, c'est brillant. C'est pas comme d'autres vins où c'est comme vraiment dans les fruits foncés rouges. Ici, non, c'est ça. On est certainement pas. Mais on n'est pas dans les. On n'est pas nécessairement aussi loin que les canneberges. On est en quelque part dans le milieu, mais avec un. C'est ça, de.
Du floral?
Oui, exactement. Oui. Floral, fruits, de cerises, des framboises rouges. Encore. Pas trop mûr, juste assez mûr, puis des prunes, comme des prunes rouges, pas violettes, là. Mais comme des fois, il y a des prunes qui sont plus rouges.
Oui.
Alors, je trouve que c'est plus dans cet aspect-là. Puis il y a un côté de fines herbes un peu, tu sais, peut-être un peu de lavande.
Oui, c'est pas faux.
Puis la lavande a aussi comme les fleurs de lavande.
Oui, puis, absolument. Puis alors, c'est là.
Encore, c'est très subtil, je dirais. Mais c'est quand même là pour agrémenter le tout. Mais moi, je veux goûter.
Hey, je veux tellement goûter. Je veux tellement goûter. Ouais, allons-y. OK. Ben, je vais y aller avec une certaine équilibre, une certaine douceur. Il n'y a encore rien qui a vraiment trop attaqué. Puis c'est ça que moi, je décris comme doux. Là. Il a pas été difficile à rentrer. Il m'a fait saliver. J'ai eu comme une espèce de dans la bouche. Il y a quand même un peu de tanin.
Oui, certainement.
Il y a quand même un peu de tanin.
Oui.
Puis il y a quand même un petit picotement acide dans le fond de la langue.
Oui, je pense en bouche, il y a peut-être un plus de... Du côté fines herbes, de lavande, il y a le... Mais tu avais parlé du fait que dans les arômes, il y avait moins de feuilles mortes. En bouche, il y a peut-être un peu plus un élément terreux.
Oui,
OK. Le fruité, pour moi, est encore là, certainement. Mais il y a quelque chose d'un peu différent en bouche. Il y a... C'est vrai qu'il y a des tanins. Ils sont quand même assez soyeux. Le pinot noir est connu pour son acidité. Il y a certainement cette acidité-là présente en bouche. C'est un... Oui, il y a certainement de l'équilibre. Puis je serais curieux de même comme dans 2 minutes, je pense que le vin est en train de changer.
Mm-hmm.
Puis c'est le pinot noir, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de tanin, c'est quelque chose qui peut bien vieillir. Alors, ce vin ici, il est quand même assez jeune, c'est un 2021. Puis moi, je pense qu'il évoluerait certainement de façon très intéressante dans les prochaines années. Le fruité serait encore présent, mais je pense qu'il y aurait un peu plus d'arômes de feuilles mortes ou de fines herbes qui entreraient en jeu. Parce que des fois, quand on sent un vin, puis on le goûte, puis qu'il y a des légères différences, c'est souvent avec l'évolution et le vieillissement, c'est que... les arômes vont ressembler peut-être un peu plus à ce qu'il y a en bouche.
Alors, ils vont pénétrer le vin davantage.
Puis... Oui, ouais. Il y a une certaine harmonie qui peut s'installer entre les arômes, entre le nez et la bouche. Puis ici, je pense que ça pourrait vieillir facilement un autre 5 ans, peut-être même 10 ans. Mm-hmm. Alors, il y a des éléments vraiment... Oui, c'est ça, intéressant.
Peut-être que je me rends compte que j'ai peut-être fait, c'est mélanger encore fruité et sucré. Je pense que je me serais attendu à un vin plus sucré que ce que c'est, puisqu'il sentait vraiment le pour moi, il sentait vraiment la cerise, la vanille. On sentait de la lavande qui a quand même un petit goût de floral sucre. Puis, est-ce qu'il est sucré, ce vin-là? Ou...
Non.
Bon, OK.
Il n'est pas sucré. Okay. il y a pas de... S'il y a du sucre, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est un vin que je dirais, c'est un vin sec.
Ouais.
Et un vin sec et fruité. Puis c'est vrai, c'est deux différentes choses. Puis quand on parle de qu'il y a une certaine douceur dans ce vin-ci, des fois, il faut... et quand on buvait le Chardonnay de Spearhead, on parlait de douceur. C'était pas un vin doux dans le sens d'un vin sucré. Mm-hmm. Des fois, on utilise cette terminologie-là, un vin sec, d'accord. Un vin demi-sec, un vin doux, souvent utilisé pour un vin qui est sucré.
Ah, d'accord.
Alors, dans ce cas ici, pour les deux Spearhead, Chardonnay et Pinot Noir, il y a une certaine, peut-être, douceur ou comme j'ai dit, un côté soyeux,
ouais.
Mais ce n'est pas du sucre. On d'accord. Ne parle pas de mm-hmm. ce genre de doux-là. Alors ici, c'est
non, certain... le doux que j'essaie de décrire, c'est la façon qui passe bien.
T'sais. Oui, c'est ça.
Comment est-ce qu'il rentre en bouche, puis comment est-ce qu'il ne provoque pas
exactement.
Quelque chose de trop intense.
C'est ça. Ouais. Oui, puis je pense que c'est une bonne description de ce qu'on ressent à la bouche. C'est ça, mais dans le monde du vin, à cause qu'il y a cette association-là parfois avec la douceur et le sucre, je voulais clarifier peu que dans ce cas-ci, c'est pas du sucre, mais c'est plutôt l'impression qu'on a en bouche.
Celui-là n'a pas beaucoup de tanin, mais pour moi, je voudrais pas qu'il y en ait moins.
Mm.
J'étais content quand même d'en avoir un peu, puis de sentir ça sur la langue, puis sur le palais. Puis ça faisait partie du bon équilibre du vin qu'on est en train de boire.
Oui, c'est ça, ouais, certainement. Puis oui, pour dire que le Pinot Noir a moins de tanin, c'est quand même... C'est ça, c'est pas qu'il y en a pas.
Mm-hmm.
C'est juste que normalement, on les remarque un peu moins que, disons, du Cabernet Sauvignon. Alors, ouais, c'est ça. Alors, c'est bien, puis ça ajoute une certaine structure, une certaine texture en bouche, les tanins. Si on n'aimait pas les tanins, on ferait des vins blancs avec les raisins rouges, puisque ça, c'est très possible.
Oui.
C'est comme le champagne est un très bon exemple. C'est la plupart des champagnes qu'on boit, c'est du Pinot Noir, du Chardonnay et puis du Pinot Meunier, qui est aussi un cépage rouge. Mais on enlève les peaux de raisins avant que les tanins et la couleur se transfèrent au jus. Alors, en général, on aime les tanins quand on boit des vins rouges.
Mm-hmm. D'accord.
Les consommateurs canadiens et américains aiment quand même... Il y en a certains qui aiment du sucre dans leurs vins rouges.
Mm-hmm.
Puis il y a certains vins très connus, très achetés au Canada et aux États-Unis qui ont un bon montant de sucre résiduel pour des vins rouges, qui peut certainement aller dans les 20-30 grammes de sucre par litre. Je dirais que quand on rentre dans les vins qui gagnent des médailles puis qui sont très bien connus, qui ont une super bonne réputation au Canada, souvent les vins rouges vont être secs.
Mm-hmm.
Est-ce que des vins de qualité, des vins rouges de qualité pourraient avoir du sucre? Je dirais que oui. Est-ce que ça se fait très souvent dans les échelons des vins qui sont cueillis à la main puis qui ont des vignobles spécifiques
ouais.
et qui sont dans des fûts de chêne? Je dirais que ça arrive moins souvent. Mm-hmm. Ça arrive moins souvent, puis est-ce que c'est une question de encore les goûts des consommateurs? C'est le fait que, pour une raison ou une autre, quelqu'un qui achète une bouteille à 50$ n'est pas intéressé à avoir du sucre dans son vin rouge.
Ouais.
Est-ce
que ça veut dire que le goût des connaisseurs est plus... tend plus vers le vin sec que le vin sucré, peut-être, puis le goût de la clientèle de la plèbe.
Oui, c'est ça.
Un peu plus sucré.
Puis hein? c'est ça. Puis je dirais que ça, c'est présentement, ça, c'est le cas. Les goûts changent, puis on le voit dans... C'est ça, le le Pinot Noir a connu une montée après le film Sideways, qui c'est le personnage principal, il parle du Pinot Noir, puis comment c'est fantastique, puis il insulte le Merlot, puis le Merlot a connu une baisse incroyable, puis il y a plein de Merlot qui a été arraché des vignobles.
À cause d'un film.
Puis ça démontre un peu à quel point que les goûts peuvent changer et changer assez rapidement.
Mm-hmm.
Puis dans ce film-là, c'est un peu une farce parce qu'il parle d'une bouteille, il y a une bouteille dans sa cave à vin qui a hâte de boire cette bouteille-là. Puis cette bouteille-là a du Merlot. C'est un assemblage de Merlot. mais il ne dit pas spécifiquement dans le film. Alors c'était quand même... Il y avait un sens d'ironie dans le film, mais ça n'a pas été assez bien expliqué. Alors, les consommateurs se sont dit « Oh, le Pinot Noir est cool, puis le Merlot ne l'est pas. » Puis ça a eu une influence dramatique dans le monde du vin. Alors, je pense pour moi, c'est un peu un exemple de ça, c'est les goûts présentement, puis ça pourrait facilement changer dans un an, 5 ans, 10 ans.
Ben, ouais. Je peux-tu essayer de deviner quelque chose?
OK.
Est-ce que je pourrais deviner que ce vin-là a été vieilli dans un fût de chêne?
Oui.
Parce que moi, je trouve qu'il y a un goût de vanille assez présent. Puis tantôt, tu semblais penser qu'il y avait un lien.
Oui, c'est ça. Alors, c'était vieilli dans des fûts de chêne français. 40% étaient des fûts de chêne neufs. Alors, quand ils sont neufs, mm-hmm. ça donne plus... Ces arômes-là sont plus présents. Puis ça a été vieilli pendant 13 mois. Alors, c'est quand même un bon petit bout de temps. Alors, il y a certainement cette influence-là des fûts de chêne français.
Merci beaucoup.
Ici, c'est ça, le Pinot Noir cuvée... dans l'autre émission, on parlait du Chardonnay clone 95. Mmh. Celui-ci, c'est des clones. Il y a le clone 115, il y a le clone 828, 667 et le clone Pommard. Alors, c'est des clones qui viennent tous de la région de Bourgogne en France, qui est très connue pour leur Chardonnay et leur Pinot Noir.
OK, d'accord.
Alors, ça, c'est vraiment encore des vignes. Puis là, on parle vraiment comme des vignes. C'est comme si... On avait nommé nos arbres, puis c'est ouais. des clones de ces vignes spécifiques-là qui ont certaines caractéristiques que le producteur recherche dans son vin. Alors ici, c'est une combinaison de 4 clones.
Si ces vins-là venaient de la Bourgogne, on les paierait beaucoup plus cher, hein, si je comprends bien.
Oh, certainement. Des vins de Bourgogne de cette qualité ici, tu paierais plus cher. Ce vin ici est fantastique. La même qualité de la Bourgogne, ça coûte facilement le double, le triple.
Oh oui, hein?
C'est une question encore de réputation. Au Canada, on n'a pas nécessairement la réputation de la Bourgogne. On a aussi de la plus petite production. Mm-hmm. Alors, on a certainement des choses. C'est un bon exemple, le Pinot Noir de Spearhead, le Chardonnay de Spearhead. Aussi, le Canada en général produit des très bons vins mousseux. Puis, comme quand on compare des vins mousseux du Canada au prix du champagne,
mm-hmm.
En termes de qualité, tu peux facilement payer le double si c'est un vin de champagne. Alors, pour moi, c'est vraiment, ça vaut la peine de découvrir les bons vins canadiens qu'on a ici. Parce que non seulement est-ce qu'ils sont délicieux, c'est le fait qu'ils sont pas aussi chers que d'autres régions mieux connues.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Puis ici, ce vin qu'on vient de boire a gagné une médaille d'or au concours de meilleur vin canadien dans la catégorie des Pinot Noirs. Alors, si vous voulez découvrir un bon Pinot Noir canadien qui a une élégance, qui a une complexité, qui a de l'équilibre, pour moi, c'est un très bon exemple.
Absolument. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on vient de boire?
Alors, on vient de boire le Spearhead Pinot Noir cuvée. Ça, c'est disponible directement du producteur Spearhead. Vous allez sur leur site web. C'est disponible leur 2021 présentement. C'est 45$. Mais pour les auditeurs de WebWest, il y a un code promo. C'est WebWest. Alors W-E-B Q-O-U-E-S-T et vous allez recevoir 10% de rabais. Puis ça fait longtemps que je suis Spearhead, puis j'ai jamais vu de code promo, alors je sauterai sur ce code promo-là pour goûter des vraiment bons chardonnays, des pinots noirs. Ils ont aussi pinot gris et Riesling. Puis pour la qualité, c'est des vraiment bons prix.
Merci beaucoup, Jérémy.
Ça me fait plaisir.
J'en ai l'ouest à la bouche avec Jérémy Gosselin, sommelier, et Yann Dallaire à l'animation, réalisation et montage. Une production de webwest.ca.
Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus.